Donc, quelles sont les spécificités de l'architecture psychiatrique? On a parlé beaucoup ce matin de différents modèles, et pour nous, il est important de justement abandonner tous les modèles qui ont pu être mis en place aujourd'hui en privilégiant une approche contextuelle, qu'elle soit contextuelle géographiquement, socialement et par rapport à toutes les spécificités du soin qui existent selon les établissements et les médecins. Avec toujours au centre des préoccupations le personnel et les patients et la nature des relations qu'ils doivent entretenir et qui sont forcément conditionnées par le cadre dans lequel ils évoluent. L'architecture à l'écoute et l'empathie spatiale. Donc, j'aurais envie de poser un petit peu la notion de géométrie liée à celle des modèles avec une sorte de sensualité dans l'approche pour privilégier justement la nature des relations qu'entretiennent les gens, les notions de confort et des thèmes extrêmement simples comme la façon d'habiter un lieu avec des schémas très sensibles, plus qu'analytiques et rationnels. Et enfin, la création d'espaces libres entre sphère du patient et celle du soin, qui était illustrée par une diapositive qu'on n'a jamais pu arriver à récupérer. Donc, c'est l'idée que le travail qui se fait entre les soignants et les patients peut se faire un peu n'importe où dans l'établissement. C'est-à-dire qu'on peut sortir des schémas traditionnels, process médicaux qu'on trouve dans des établissements hospitaliers, à distinguer des établissements psychiatriques, en tout cas dans notre conception architecturale, et de dire que l'ensemble du bâtiment peut être dédié aux soins dans la nature des relations entre les gens et de la façon de se positionner, avec des notions d'appropriation et de liberté d'usage, qu'on verra par la suite. Bon, ça, c'était le schéma, mais tant pis. Donc, les outils contextuels que nous manipulons. Alors, le vide comme espace des possibles, on en a parlé tout à l'heure, ce matin, dans quelques interventions. L'idée que des espaces qui ne sont pas affectés à des fonctions précises peuvent tout à fait supporter différentes fonctions autres que celles pour lesquelles elles sont prévues. Alors, le vide, c'est l'espace entre l'emplacement étant dédié à des fonctions particulières, les bureaux de consultation, les bureaux infirmiers, etc., et les espacements qui sont les vides interstitiels entre ces blocs de fonctionnalités. La diversité également est un outil thérapeutique dans la mesure où elle permet de maintenir en éveil sensoriel les gens, qu'ils soient patients, soignants, visiteurs, familles, et donc éviter absolument la monotonie, l'uniformisation. Donc tous les bâtiments doivent comporter des espaces différenciés qui sont travaillés indépendamment les uns les autres, mais avec le souci d'une homogénéité et d'une harmonie globale. Troisième élément, le cheminement comme réponse à l'état de crise. Donc un bâtiment se vit en le parcourant. Donc, on travaille beaucoup sur la notion de circuit en boucle, notamment pour éviter les cul-de-sac, les distributions linéaires, avec retour en arrière quand on arrive au bout du couloir. Toutes ces choses-là qui sont autant de possibilités d'appréhender un bâtiment, de le parcourir, de le découvrir, d'être surpris par la lumière, par des événements qui vont être disposés tout au long du parcours. Donc, de faire des sortes de théâtre. Entre guillemets, bon, tout ça, c'est toujours ramené à une notion d'usage extrêmement simple et extrêmement domestique. Donc, il n'y a pas une théâtralisation de l'architecture, puisque on l'appréhende toujours par rapport à l'usage et non pas par rapport à l'image qu'elle donne. Enfin, l'esthétique contemporaine et l'implantation urbaine comme vecteur d'intégration sociale. On est encore une fois assez éloigné des modèles qui conduisaient, malgré quelques détails géographiques, dans des images qui sont récurrentes et uniformisées. On s'adapte toujours au contexte géographique, au contexte urbain ou, au contraire, périurbain ou à la campagne. Bon, on peut créer des structures complètement ex nihilo, mais toujours en s'appuyant sur un contexte existant. Alors, j'ai pris quelques images d'illustration de projets selon chaque thème que je viens d'évoquer, donc le vide comme espace des possibles, on voit ici des lieux qui sont des élargissements de circulation, mais qui sont construits. Un couloir qui va faire 4 mètres de large n'est pas forcément plus utilisable qu'un qui va faire 1,80 m et qui est très suffisant. Mais il faut l'habiter, l'animer et faire en sorte que ce soit un lieu de vie et pas simplement un lieu de distribution qui permette de s'arrêter, de faire une pause, de continuer et d'être accompagné toujours par des éléments volumétriques particuliers, de couleurs différentes, de matériaux différents également. Donc à côté, on a un espace qui sert de salon. À droite, on a une circulation avec des creux et où on a quelques sièges, des plantes. Enfin, il y a une animation qui se fait de façon assez riche. Là, un hall d'accueil. Bon, il y a toujours une permanence de la lumière. Je vais faire passer pas mal de photos et garder à l'esprit cette notion de lumière qu'on voit partout, puisque c'est l'élément, c'est une sorte de flux vital qui doit exister, quelle que soit la nature de l'architecture et du bâtiment. Donc à l'extérieur également, on a des lieux qui ne sont pas affectés, c'est-à-dire que ce sont des surfaces pour lesquelles il n'y a pas de fonction prévue. Mais justement, tout l'intérêt est de se les approprier pour en faire quelque chose. La diversité, donc des images assez différentes bon, par projet. Donc là, c'est un service de psychiatrie adulte à Dreux, où on voit sur une seule image la nature des espaces qui sont différents, des circulations en bas à droite, des jardins, un hall d'accueil. Donc on n'est pas dans une uniformité, une économie de matériaux, une économie d'ailleurs qui peut parfois être très chère, mais on est dans une sorte d'adaptation de l'architecture à chaque partie du bâtiment pour assurer cette notion de diversité et faire en sorte que le parcours du bâtiment soit sans cesse une sollicitation. Une sollicitation ne veut pas dire excitation non plus. Ça veut dire qu'on peut avoir une succession d'espaces sereins qui font que leur usage contribue à rendre l'ambiance de l'ensemble du bâtiment très calme et sereine. Je suis trop près. Donc un autre projet à Nice avec des couleurs peut-être un petit peu plus méridionales et un ciel aussi qui participe à la couleur. Donc là aussi des espaces très différenciés avec toujours beaucoup de lumière. Un autre projet à Bergerac avec, vous pouvez le voir, la mise en exergue de certaines zones par des volumes particuliers, revêtus de matériaux particuliers aussi. Bon, les choses grises, là, c'est du zinc, donc c'est un matériau qu'on aime bien employer parce qu'il est utilisable autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Notion de règles de sécurité incendie nous permettent de l'utiliser même dans les circulations. Voilà. Le troisième élément, c'était le cheminement comme réponse à l'état de crise. Donc, différentes vues, toujours par rapport à certains projets, où la morphologie des espaces est différente, selon qu'on distribue des chambres ou des bureaux ou des espaces d'activité. On a à chaque fois des couleurs, des géométries différentes. On voit en bas, on a des choses arrondies, on a des circulations en angle qui s'ouvrent toujours sur des patios ou sur des extérieurs plus ou moins lointains qui apportent de la lumière avec des volumes qui sont colorés de façon différente. En haut à gauche, ce sont les salles de bain des chambres qui ressortent dans la circulation. Ce sont des traitements assez classiques qu'on trouve dans beaucoup de projets. Mais ce qui est important, c'est de faire coïncider ça avec un apport de lumière naturelle en face et éviter d'avoir de chaque côté des circulations des traitements équivalents. Un foyer d'accueil médicalisé, où là aussi, bon, on a avec des géométries différentes, des volumes différents, mais un souci de la diversité et du cheminement, de l'accompagnement du cheminement. On voit en bas à droite, on a des parties vitrées qui ouvrent sur un jardin central, alors que en bas à droite, on le voit un peu moins bien, mais on ouvre sur l'extérieur du projet. Et là aussi, bon, toujours ces transparences. Alors, le facteur d'intégration urbaine lié à l'architecture contemporaine est également important. On travaille en ce moment sur un projet à Strasbourg où il y a Externalisation de 140 lits du site de Brumath sur le site de Cronenbourg, qui est un quartier quasiment en centre-ville de la ville de Strasbourg. Et le positionnement de cette structure en pleine ville modifie d'une part le quartier, mais doit aussi tirer son essence de ce qui existe déjà. Bon, c'est un quartier un petit peu chaud. Il y a une sorte d'économie locale qui peut difficilement être conservé dans l'usage futur du bâtiment. Enfin, en tout cas, on va s'attacher à ce que ce soit diminué.
De façon licite.
Voilà. Mais il y a une interaction forte entre le contexte géographique et urbain et la nature du projet qu'on a été amené à dessiner. Bon. Les images, donc là, c'est un projet de 140 lits, un peu important, avec une superposition d'étages, un morcellement qui reprend, selon la nature des voies, ce qui existe en face. Donc on a une rue en haut avec un front bâti un petit peu dense, puisque en face, on va avoir des barres de logements qui vont constituer une continuité urbaine, alors que sur d'autres rues, on a un morcellement qui va s'intégrer plus à soit une école en face, soit un tissu moins dense. Et donc une image de la psychiatrie qui est un peu éloignée des modèles qu'on a vus de façon très intéressante ce matin au fil de l'histoire et qui s'intègre parfaitement à la ville en donnant une image qui n'est pas celle d'un établissement de soins a priori. Mais quelle doit être l'image d'un établissement de soins a priori? Je ne suis pas sûr que ça doit exister. Et c'est à vous et à nous, à travers les projets qu'on construit ensemble, De proposer des images qui s'intègrent encore une fois au contexte plutôt que une idée préconçue d'un message à délivrer à travers cette architecture. Je pense que l'architecture est le premier vecteur de communication que la psychiatrie peut entretenir avec la ville, la société en général. C'est-à-dire qu'à travers l'idée qu'on va se faire d'un bâtiment de soins en psychiatrie, on va avoir une image de ce qui se passe à l'intérieur. Et les murs traditionnels, et qui le sont de moins en moins, donnaient une image d'agressivité, d'anxiété, de danger, qui continue encore aujourd'hui. Et donc, proposer des images comme ça, de bâtiments très ouverts, avec des interactions possibles, on l'a vu à Armentières, où les gens peuvent se promener à l'intérieur des établissements, contribuent à véhiculer une autre image et donc à faciliter aussi l'intégration de bâtiments de structures de jour, notamment en ville, ce qui est parfois un peu compliqué. Donc l'esthétique contemporaine, différentes images, on manipule des formes qui ne sont pas celles de l'hôpital, forcément, a priori. Des choses assez variées, on emploie du bois, du zinc, des formes. Bon, il n'y a pas, encore une fois, il ne doit pas y avoir une architecture psychiatrique. Mais la psychiatrie doit pouvoir s'intégrer dans n'importe quelle architecture, à condition de régler certains détails, évidemment. Donc, des choses un peu plus urbaines, c'est un bâtiment de pédopsychiatrie à Clermont-Ferrand. Ça. Voilà. Alors, la thérapeutique de l'espace. Bon, des termes un petit peu génériques qu'il faut évidemment moduler. Donc, la qualité de l'espace et son confort donc, permet de faciliter l'accès aux soins. Il est évident qu'une population qui se sent bien dans un bâtiment est plus disponible à recevoir ce pour quoi elle y est. L'espace empathique est également fait pour faciliter la prise en charge des patients en allégeant la surveillance, c'est-à-dire que c'est un espace qui doit être à l'échelle de ses utilisateurs et ne pas hiérarchiquement prendre le pas sur eux. C'est-à-dire que c'est une architecture qui est au service et qui n'est pas là pour imposer une image qui serait différente de cet objectif. L'autonomie d'accès au lieu génère moins de contraintes, moins de pression, moins de violence, moins de danger. Ça veut dire que tous les espaces de distribution, notamment, mais aussi d'activité, quelle qu'elle soit, doivent pouvoir être accessibles librement. Ça évite de ressentir de la frustration à ne pouvoir aller dans un endroit du bâtiment. Il n'y a rien de pire que de savoir qu'à au-delà d'une porte, il y a encore autre chose et qu'on ne peut pas y aller, donc ça crée de l'interrogation, et finalement, petit à petit, ça crée du stress, ça crée de la violence. Donc, plus l'espace va être facilement accessible à tous et librement accessible à tous, moins les sujets de contrariété vont être importants. Bon, c'est des choses assez banales, mais quand on visite des établissements, on s'aperçoit qu'il est difficile parfois de faire 10 mètres avant d'ouvrir une porte à clé. Bon, c'est problématique pour le personnel d'ouvrir les portes, et c'est encore plus problématique pour les patients, les familles ou les visiteurs de ne pouvoir aller au-delà de cette porte sans demander l'autorisation d'y aller. Donc les conséquences, c'est une meilleure qualité de vie, donc meilleur accès aux soins et des meilleures conditions de travail. Donc cette question de la sécurité à la fois des patients et du personnel est toujours primordiale dans les échanges qu'on a à travers des projets. C'est la base, enfin la nature de la sécurité qu'on met en place sert de base à la façon de vivre le bâtiment dans le futur. Donc voir et être vu, bon, des transparences, mais pas systématiques. Donner à voir tout ou être systématiquement vu partout, c'est un générateur de stress. Il faut des lieux où on peut se retirer, où on peut se protéger, où on peut exister sans être systématiquement sous la surveillance de quelqu'un. L'alternative individuelle à la pratique collective des lieux, c'est cette idée de liberté d'usage de tous les lieux qu'on est susceptible de proposer. Donc dire on rend accessible de façon très libre l'ensemble des lieux, ça suppose de proposer des lieux différents, d'où le retour à cette notion de diversité. Si on donne accès à des lieux qui sont banalisés, qui sont tous pareils, ça n'a strictement aucun intérêt. La liberté de déplacement, donc fluidité des espaces de circulation, on l'a déjà évoqué, on l'a vu sur les images, et les contraintes spatiales supprimées dans la plus de cas possible, avec une générosité des surfaces qui s'apparente, qui s'agrémente parfois assez difficilement des contraintes budgétaires que on a également à gérer. L'intérêt d'augmenter des surfaces doit être consensuellement discuté. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit parfois qu'on peut diminuer le nombre de bureaux de quelques unités au profit d'un espace qui va être moins lisiblement attribué, mais qui va apporter beaucoup d'avantages. Donc la surface n'est pas forcément construite toujours au bon endroit. Donc on a, à travers des échanges sur les fonctions, à bien mettre l'argent là où il doit être. Et puis, bon, toujours le confort maximum, la lumière, les couleurs, les matériaux. Alors, je voulais évoquer les projets de l'UHSA, en l'occurrence celle de Toulouse qu'on a fait, par rapport à cette notion de sécurité. Alors, cet après-midi, il y a une intervention sur cette question des UHSA, mais elle synthétise ces problèmes de sécurité qui sont récurrents, quelle que soit la nature du bâtiment. Et où on a à confronter deux lectures, dans le cas des UHSA, celle de la pénitentiaire et celle de l'hôpital, où on fait un lieu d'enfermement, mais surtout un lieu thérapeutique, avec quand même l'obligation de mettre en place l'ensemble des notions de sécurité qu'on a dans une prison, d'où cette image un petit peu anxiogène que j'ai choisie à dessein, même si on a un petit travail sur le béton, mais qui n'intéresse que les architectes derrière, là. Parce que ce qu'on voit en premier, c'est les bas-volets, c'est le grillage, et c'est la nature du mur, là, qui fout un peu les jetons, quand même. Mais à l'intérieur, on a autre chose. Donc on a encore une fois de la lumière. Bon, ce qui n'est pas si simple que ça. Enfin, je suppose que vous avez à pratiquer, enfin, je ne vous le souhaite pas, mais pratiquer ou visiter des établissements où il n'y a pas beaucoup de lumière à l'intérieur. Donc, c'est un vrai travail et une vraie intention à poser au départ, et surtout s'y tenir. Parce que c'est très facile de faire un couloir aveugle avec des pièces de chaque côté, mais ce n'est pas forcément très intéressant. Donc là, même au sein d'une structure carcérale extrêmement lourde, on arrive quand même à créer on aura l'occasion de répondre aux questions.
Pour tout à l'heure, Antoine, s'il te plaît.
Donc, on a notamment un motif qu'on voyait sur le béton, qu'on retrouve à l'intérieur, des couleurs et de la lumière, donc, qui est l'élément essentiel. qui permet d'alléger un petit peu l'ambiance de ces lieux d'enfermement. Les espaces extérieurs qui sont traités. Bon, il y a beaucoup de contraintes de sécurité, notamment à l'extérieur, pas de relief pour pas pouvoir grimper. Donc on a une palette d'outils extrêmement restreinte et qu'il faut quand même travailler pour faire de ces lieux un lieu thérapeutique comme c'est l'objectif. Donc ici, un exemple d'approche conceptuelle avec différents thèmes. Et donc le docteur Thévenon reparlera tout à l'heure avec un plan qu'on voit en bas, dont la forme a été directement issue du terrain qui était alloué. Donc un terrain extrêmement exigu par rapport à ce qu'il y avait à mettre dessus, et on a été obligé d'utiliser vraiment l'ensemble de la surface en s'alignant sur les limites qu'on nous avait données. Donc c'est moins pour décrire le projet en lui-même que pour décrire les thèmes qu'on travaille pour faire évoluer le projet. Donc là, c'est le fonctionnement général avec 6 modules, donc 2 de psychiatrie générale, un de réinsertion, un module fermable, un module d'admission, un CAC, organisé autour d'une série d'espaces communs. Donc on s'attache à ces notions de cheminement en les hiérarchisant. En faisant en sorte qu'ils soient différents selon ce qu'ils desservent, donc les espaces publics, semi-publics, privés, et les privés desservant les chambres et les publics desservant les activités les plus communes qui servent à tout le monde. Des emplacements stratégiques qui rythment ces cheminements et qui font des animations qui améliorent cette diversité si intéressante. Les espaces à l'air libre, donc différents statuts aussi, donc des jardins clos, des jardins centraux, un jardin central directement accessible, des jardins ouverts qui sont libres d'accès et des espaces qui servent à éclairer mais qui ne sont pas accessibles. Donc ça, ce sont des transparences qui montrent par où peut pénétrer la lumière naturelle. Donc sur les projets, plus il y a de flèches, mieux c'est. Donc là, il y en a pas mal, ce qui fait que bon, quand on visite le bâtiment, on n'est jamais dans un couloir aveugle. On utilise la lumière naturelle avec la lumière artificielle avec parcimonie. Donc quelques photos, mais je passe assez rapidement puisque on reviendra dessus tout à l'heure et on en a déjà vu quelques-unes. Donc après. En iconographie architecturale, c'est bien de voir des images, même si on ne sait pas à quoi ça correspond. Ça fixe un petit peu des choses et après, ça permet de relier ce qu'on dit à des vues. Bon, un certain nombre de projets différents, donc avec là une géométrie plus cadrée. C'est un projet à Mantes-la-Jolie. Donc des espaces de vie, l'emploi de couleurs, donc ça a été évoqué déjà ce matin, on utilise beaucoup la couleur pour d'abord parce que c'est moins cher que des matériaux naturels, et puis ça a des vertus d'animation et de ça permet de rendre les espaces moins anxiogènes. Un projet à Aurillac qui consistait à implanter un pôle de psy dans un hôpital existant avec une présence architecturale en pierre très très forte. Donc on s'est mis à l'intérieur, on voit à gauche les traces des bâtiments existants qui ont été réutilisés et à l'intérieur des constructions neuves. Pardon. Donc toujours des formes assez diverses et des matériaux différents. Je passe rapidement, hein, parce qu'après, on pourra toujours revenir dessus. Si...
Il y a encore 10 minutes.
Ça. 10 minutes, ça va.
Max, toujours un maximum.
Voilà, des circulations, donc une chambre. Projet à Bergerac. Projet à Bergerac a la particularité d'être composé d'une unité de psychiatrie adulte ouverte, une unité de psychiatrie adulte fermée, une unité de gérontopsychiatrie et une unité de pédopsychiatrie à faire évoluer, alors au niveau du programme de façon complètement indépendante, Après les différents échanges qu'on a eus, ces différents services, en ouvrant quelques portes, ont permis de construire un certain nombre d'activités communes au centre de cet ensemble, donc qui est accessible indifféremment par tout le monde et qui crée un espace d'activité vivant. Et donc, au lieu d'avoir des parties de bâtiments assez autistes les unes par rapport aux autres, on a une sorte de vie commune qui se met en place et qui fait vivre un lieu. C'est un lieu complètement au rez-de-chaussée, donc très étalé, avec des circulations relativement longues. Mais notre avis, en psychiatrie, la longueur de la distribution est inversement proportionnelle à son efficacité. Ou non, elle est proportionnelle à son efficacité. C'est-à-dire que plus elle est longue, à condition qu'elle soit bien traitée, évidemment, plus elle a des vertus. Donc ce n'est pas toujours en mesurant la longueur de circulation qu'on mesure la longueur de sa peine ou le poids de sa peine. Je crois que je reviens. Voilà, des choses... Bon, je vais assez vite. Donc, voilà, Libère Delorme, l'architecture est faite pour soigner la mélancolie. Donc, ça date de 1550, à peu près. Donc, c'est pas nouveau. Ce que je voulais évoquer en terminant, c'était la nécessité pour les différents acteurs de l'acte de construire en psychiatrie de se cultiver à cette question de l'architecture. Et c'est d'autant plus important, et j'en parlais avec le docteur Jouan tout à l'heure, qu'il n'y a que vous qui pouvez juger de la qualité d'un projet. Dans le cadre des concours, vous avez 3 ou 4 propositions et c'est à vous d'en choisir un. Par contre, il ne faut pas se laisser berner par la qualité des images, par la qualité du papier, enfin des choses qui ne servent finalement pas à grand-chose. Parce que ce qui compte, c'est l'intérieur, c'est la résolution des espaces par rapport à l'usage qu'on en fait. Ce qui ne veut pas dire que la qualité de l'architecture extérieure doit être laissée pour compte, mais ça ne doit pas être la priorité. Le geste architectural ne peut absolument pas être la base de la qualité d'un projet. Il vient après, quand on peut, quand on a un peu de sous, mais c'est l'usage qu'on en fait. Donc c'est l'analyse sensible d'un projet qui compte. Ce n'est pas une analyse à distance. Donc pour ça, il faut déjà savoir lire des plans. Et je ne mets absolument pas en question vos compétences individuelles. Néanmoins, c'est un métier aussi et ce n'est pas inné. Donc je milite, et on en parlait avec monsieur Carole hier, sur les moyens d'intégrer dans un système de formation des psychiatres ou des soignants ou des directeurs d'établissement quelques cours d'architecture, des choses qui seraient en plus... assez agréable, sans doute, qui changerait un petit peu du reste de l'enseignement, mais qui aurait l'avantage de pouvoir vous permettre d'aborder des projets avec peut-être un petit peu plus de finesse dans la lecture des plans. Et il faut qu'on vous accompagne, mais avant que les architectes qui construisent les bâtiments vous accompagnent, il faut qu'ils aient gagné le projet. Et le projet qui sera choisi va porter en lui toutes les bases de la nature du travail qui va être accompli dedans à la fin. Et ce qui va être construit un jour va poser des problèmes ou des avantages pendant 30 ou 50 ans. Donc c'est quand même pas neutre. Et un bâtiment, il est, malgré les demandes de modularité, d'évolutivité, etc., il est immuable. Il ne faut pas croire que parce qu'on va péter 3 ou 4 cloisons, on va changer l'esprit d'un bâtiment. Et ce qui pose problème le jour de l'ouverture va poser encore plus de problèmes 10 ans après. Et par rapport à ça, je voudrais aussi, pour finir, évoquer la notion des coûts. Et la maîtrise des coûts est évidemment un élément incontournable, bien entendu. Néanmoins, parfois, mettre un petit peu plus d'argent à un certain endroit peut éviter des surcoûts induits dans la durée du fonctionnement du bâtiment qui coûteront bien plus cher. Donc c'est un travail d'échange. Il ne faut pas croire que les architectes sont là pour faire dépenser de l'argent pour gagner plus d'honoraires. Ils sont surtout là, normalement, pour qu'un bâtiment fonctionne et que tout le monde qui va être amené à le parcourir s'y trouve bien. Merci.
Merci, monsieur Lodin.